Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Septième épisode.
Pour Rodolphe, Emma disposait sa personne comme une courtisane qui attend un prince. Il fallait que la domestique fût sans cesse à blanchir du linge, et de toute la journée, Félicité ne bougeait de la cuisine, où le petit Justin la regardait travailler. Le coude sur la longue planche où elle repassait, il considérait avidement toutes ses affaires de femme étalées autour de lui.
À quoi cela sert-il ?
C'est une agrafe. Tu n'as donc jamais rien vu ? Comme si ta patronne, Madame Homais, n'en portait pas de pareil.
Ah bien oui, Madame Homais. Est-ce que c'est une dame comme Madame ?
Ah, laisse-moi tranquille. Va-t'en plutôt piler des amandes. T'es toujours à fourrager du côté des femmes. Attends pour te mêler de ça, méchant mioche, que tu aies de la barbe au menton.
Alors, ne vous fâchez pas. Je m'en vais vous faire ces bottines.
Et aussitôt, il atteignait sur le chambranle les chaussures d'Emma, tout empâtées de crottes. La crotte des rendez-vous, qui se détachait en poudre sous ses doigts et qu'il regardait monter doucement dans un rayon de soleil.
Comme tu as peur de les abîmer.
Par l'effet seul de ses habitudes amoureuses, Madame Bovary changea d'allure. Ses regards devinrent plus hardis, ses discours plus libres. Elle eut même l'inconvenance de se promener avec M. Rodolphe une cigarette à la bouche, comme pour narguer le monde. Enfin, ceux qui doutaient ne doutèrent plus quand on la vit, un jour, la taille serrée dans un gilet, à la façon d'un homme. Et Madame Bovary mère, qui après une épouvantable scène avec son mari était venue se réfugier chez son fils, ne fut pas la bourgeoise la moins scandalisée. Bien d'autres choses lui déplurent. D'abord, Charles n'avait pas écouté ses conseils pour l'interdiction des romans. Puis, le genre de la maison lui déplaisait. Elle se permit des observations. Et l'on se fâcha une fois surtout à propos de Félicité.
Hier au soir, j'ai aperçu la domestique avec un homme d'une quarantaine d'années. Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle. À moins de se moquer des mœurs, on doit surveiller celle des domestiques.
De quel monde êtes-vous ?
Défendez-vous votre propre cause ?
Sortez !
Emma. Maman.
C'est une insolente ! Une évaporée, pire peut-être. Je te préviens, Charles, je pars sur le champ si elle ne vient pas me présenter ses excuses.
Charles retourna donc vers sa femme et la conjura de céder. Il se mit à genoux.
Soit, j'y vais.
En effet, elle tendit la main à sa belle-mère avec une dignité de marquise. Puis remontée chez elle, Emma se jeta tout à plat ventre sur son lit et elle y pleura comme un enfant, la tête enfoncée dans l'oreiller.
Si tu savais.
Allons, pauvre ange. Du courage. Console-toi. Patience.
Mais voilà 4 ans que je patiente et que je souffre. Un amour comme le nôtre devrait s'avouer à la face du ciel. Ils sont à me torturer. Je n'y tiens plus. Sauve-moi.
Elle se serrait contre Rodolphe. Ses yeux, pleins de larmes, étincelaient comme des flammes sous l'onde. Sa gorge haletait à coups rapides. Jamais il ne l'avait tant aimé, si bien qu'il en perdit la tête.
Que faut-il faire ? Que veux-tu ?
Emmène-moi ! Enlève-moi ! Oh, je t'en supplie !
Mais...
Quoi donc ?
Et ta fille ?
Nous la prendrons, tant pis. J'y vais.
Quelle femme !
Jamais Madame Bovary ne fut aussi belle qu'à cette époque. Elle avait cette indéfinissable beauté qui résulte de la joie, de l'enthousiasme, du succès et qui n'est que l'harmonie du tempérament avec les circonstances. Charles, comme au premier temps de son mariage, la trouvait délicieuse et tout irrésistible. Quand il rentrait au milieu de la nuit, il n'osait pas la réveiller. La veilleuse de porcelaine arrondissait au plafond une clarté tremblante. Et les rideaux fermés du petit berceau faisaient comme une hutte blanche qui se bombait dans l'ombre au bord du lit. Charles les regardait. Il croyait entendre l'haleine légère de son enfant. Emma ne dormait pas. Elle faisait semblant d'être endormie. Et tandis qu'il s'assoupissait à ses côtés, elle se réveillait en d'autres rêves. Au galop de 4 chevaux, elle était emportée depuis 8 jours vers un pays nouveau d'où ils ne reviendraient plus. Ils allaient, les bras enlacés, sans parler.
J'ai besoin d'un manteau, un grand manteau à long collet, doublé.
Vous partez en voyage ?
Non, mais n'importe. Je compte sur vous, n'est-ce pas ? Et vivement. Il me faudra encore une caisse, pas trop lourde, commode.
Oui, j'entends. De 92 cm environ sur 50, comme on le fait à présent.
Avec un sac de nuit. Et tenez, prenez cette montre. Vous vous payerez dessus.
Mais non, enfin, madame, vous me connaissez. Doutez-vous de moi ? Quel enfant qu'il y a ?
Prenez au moins la chaîne.
Bien.
Vous laisserez tout chez vous. Quant au manteau, ne la portez pas non plus. Seulement, vous me donnerez l'adresse de l'ouvrier et avertirez quand le tienne à ma disposition.
C'était le mois prochain qu'il devait s'enfuir. Elle partirait de Yonville comme pour aller faire des commissions à Rouen. Rodolphe aurait retenu les places, pris les passeports et même écrit à Paris afin d'avoir la malle entière jusqu'à Marseille, où ils achèteraient une calèche et de là continueraient sans s'arrêter par la route de Gênes. Elle aurait eu soin d'envoyer chez l'heureux son bagage, qui serait directement porté à l'hirondelle, de manière que personne n'aurait de soupçons. Et dans tout cela, jamais il n'était question de son enfant. Rodolphe évitait d'en parler. Peut-être qu'elle n'y pensait pas. Il voulut avoir encore 2 semaines devant lui pour terminer quelques dispositions. Puis au bout de 8 jours, il en demanda 15 autres. Puis il se dit malade. Ensuite, il fit un voyage. Le mois d'août se passa et après tous ces retards, ils arrêtèrent que ce serait irrévocablement pour le 4 septembre. Un lundi. Enfin, le samedi, l'avant-veille arriva.
Tout est prêt ?
Oui.
Tu es triste ?
Non, pourquoi ?
Est-ce de t'en aller ? De quitter tes affections, ta vie ? Ah, je comprends. Mais moi, je n'ai rien au monde. Tu es tout pour moi. Aussi, je serai tout pour toi. Je te serai une famille. Une patrie. Je te soignerai. Je t'aimerai.
Que tu es charmante.
Vrai ? M'aimes-tu ? Jure-le donc.
Si je t'aime, mais je t'adore, mon amour. Ah, oh, la belle nuit.
Nous en aurons d'autres. Oui, il fera bon voyager. Minuit. Allons, c'est demain. Encore un jour. Tu as les passeports ?
Oui.
Tu n'oublies rien ?
Non.
Tu en es sûr ?
Certainement.
C'est à l'hôtel de Provence, n'est-ce pas, que tu m'attendras ? À midi ?
Oui.
À demain, donc. À demain.
Au bout de quelques minutes, Rodolphe s'arrêta. Et quand il la vit avec son vêtement blanc peu à peu s'évanouir dans l'ombre comme un fantôme, il fut pris d'un tel battement de cœur qu'il s'appuya contre un arbre pour ne pas tomber.
Quel imbécile je suis. N'importe, c'était une jolie maîtresse. Car enfin, je ne peux pas m'expatrier, avoir la charge d'une enfant. Et d'ailleurs, les embarras, la dépense... Ah non, mille fois non. Cela eût été trop bête. Allons, commençons. Du courage, Emma. Du courage. Je ne veux pas faire le malheur de votre existence. Après tout, c'est vrai, j'agis dans son intérêt, je suis honnête. Avez-vous mûrement pesé votre détermination? Savez-vous l'abîme où je vous entraînais, pauvre ange? Vous alliez confiante et folle, croyant au bonheur, à l'avenir. Ah, malheureux que nous sommes. Insensé. Si je lui disais que toute ma fortune est perdue? Oh non. Et d'ailleurs, cela n'empêcherait rien. Ce serait à recommencer plus tard. Est-ce qu'on peut faire entendre raison à des femmes pareilles? Je ne vous oublierai pas, croyez-le bien. Et j'aurai continuellement pour vous un dévouement profond. Mais un jour, tôt ou tard, cette ardeur se fût diminuée sans doute. Il nous serait venu des lassitudes, et qui sait même si je n'aurais pas eu l'atroce douleur d'assister à vos remords et d'y participer moi-même, puisque je les aurais causés. L'idée seule des chagrins qui vous arrivent me torture, Emma. Oubliez-moi. Pourquoi faut-il que je vous ai connue? Pourquoi étiez-vous si belle? Est-ce ma faute? Oh mon Dieu, non. Non, n'en accusez que la fatalité. Voilà un mot qui fait toujours de l'effet. Le monde est cruel, Emma. Partout où nous eussions été, il nous aurait poursuivis. Il vous aurait fallu subir les questions indiscrètes, la calomnie, le dédain, l'outrage peut-être. L'outrage à vous. Oh, et moi qui voudrais vous faire asseoir sur un trône. Moi qui emporte votre pensée comme un talisman. Car je me punis par l'exil de tout le mal que je vous ai fait. Je pars. Où? Je n'en sais rien. Je suis fou. Adieu. Soyez toujours bonne. Conservez le souvenir du malheureux qui vous a perdu. Il me semble que c'est tout. Ah! Encore ceci, de peur qu'elle ne vienne à me relancer. Je serai loin quand vous lirez ces tristes lignes. Car j'ai voulu m'enfuir au plus vite, afin d'éviter la tentation de vous revoir. Pas de faiblesse. Je reviendrai, et peut-être que plus tard, nous causerons ensemble, très froidement, de nos anciennes amours. Adieu. Adieu. Comment vais-je signer maintenant? Votre tout dévoué? Non. Votre ami? Oui, c'est cela. Votre ami.
Le lendemain, quand il fut debout, Rodolphe se fit cueillir une corbeille d'abricots. Il disposa la lettre dans le fond, sous les feuilles de vigne, et ordonna tout de suite à Girard, son valet de charrue, de porter cela délicatement chez Madame Bovary.
Si elle te demande de mes nouvelles, tu répondras que je suis parti en voyage. Il faut remettre le panier à elle-même, en main propre. Va, et prends garde.
Emma courut dans la salle comme pour y porter les abricots, renversa le panier, arracha les feuilles, trouva la lettre, l'ouvrit, et comme s'il y avait eu derrière elle un effroyable incendie, elle se mit à fuir vers sa chambre, tout épouvantée. Charles y était, elle l'aperçut, il lui parla, elle n'entendit rien, et elle continua vivement à monter les marches, haletante, éperdue, ivre, et toujours tenant cette horrible feuille de papier qui lui claquait dans les doigts comme une plaque de tôle. Au second étage, elle s'arrêta devant la porte du grenier.
Ici, je serai bien.
Emma poussa la porte et entra. Les ardoises laissaient tomber d'aplomb une chaleur lourde qui lui serrait les tempes et l'étouffait. Elle se traîna jusqu'à la mansarde close, dont elle tira le verrou, et la lumière éblouissante jaillit d'un bond.
En face, par-dessus les toits, la pleine campagne s'étalait à perte de vue. En bas, sous elle, la place du village était vide. Les cailloux du trottoir scintillaient, les girouettes des maisons se tenaient immobiles. Elle s'était appuyée contre l'embrasure de la mansarde et elle relisait la lettre avec des ricanements de colère. Mais plus elle y fixait d'attention, plus ses idées se confondaient. Elle le revoyait, elle l'entendait, elle l'entourait de ses deux bras. Et des battements de cœur qui la frappaient sous la poitrine comme à grands coups de bélier s'accéléraient l'un après l'autre à intermittences inégales. Elle jetait les yeux tout autour d'elle avec l'envie que la terre croulât. Pourquoi n'en pas finir? Qui la retenait donc? Elle était libre. Et elle s'avança, elle regarda les pavés.
Allons.
Le rayon lumineux qui montait d'en bas directement tirait vers l'abîme le poids de son corps. Il lui semblait que le sol de la place oscillant s'élevait le long des murs et que le plancher s'inclinait par le bout à la manière d'un vaisseau qui tangue. Elle se tenait tout au bord, presque suspendue, entourée d'un grand espace. Le bleu du ciel l'envahissait. L'air circulait dans sa tête creuse. Elle n'avait qu'à céder, qu'à se laisser prendre. L'idée qu'elle venait d'échapper à la mort faillit la faire s'évanouir de terreur. Elle ferma les yeux, puis elle tressaillit au contact d'une main sur sa manche. C'était Félicité.
Monsieur vous attend, madame. La soupe est servie.
Et il fallut descendre. Il fallut se mettre à table.
Nous ne sommes pas prêts à ce qu'il paraît de voir Monsieur Rodolphe.
Qui te l'a dit?
C'est Gérard que j'ai rencontré tout à l'heure à la porte du Café Français. Il est parti en voyage, ou il doit partir. Et quoi donc t'étonne? Il s'absente ainsi de temps à autre pour se distraire, et ma foi, je l'approuve. Quand on a de la fortune et que l'on est garçon... Du reste, il s'amuse joliment, notre ami. C'est un farceur. Monsieur Langlois m'a conté...
Il se tut par convenance à cause de la domestique qui entrait. Celle-ci replaça dans la corbeille les abricots répandus sur l'étagère. Charles, sans remarquer la rougeur de sa femme, se les fit apporter, en prit un et mordit quand même.
Parfait. Tiens. Goûte. Sans don. Quelle odeur!
J'étouffe!
Ma chérie!
Ce n'est rien. C'est nerveux. Assieds-toi, mange.
Tout à coup, un tilbury bleu passa au grand trou sur la place. Emma poussa un cri et tomba roide par terre à la renverse. En effet, Rodolphe, après bien des réflexions, s'était décidé à partir pour Rouen. Or, comme il n'y a pas d'autre chemin que celui d'Yonville, il lui avait fallu traverser le village et Emma l'avait reconnu à la lueur des lanternes qui coupaient comme un éclair le crépuscule. Le pharmacien, au tumulte qui se faisait dans la maison, s'y précipita. La table, avec toutes les assiettes, était renversée, de la sauce, de la viande, les couteaux, la salière et l'huilier jonchaient l'appartement. Charles appelait au secours. Berthe, effarée, criait... Et Félicité, dont les mains tremblaient, délaçait madame, qui avait le long du corps des mouvements convulsifs.
Oh, tenez, faites-lui respirer un peu de vinaigre aromatique. Là. Ah, bah, j'en étais sûr. Ça vous réveillerait un mort.
On la porta sur son lit. Elle restait étendue, la bouche ouverte, les paupières fermées, les mains à plat, immobiles, et blanche comme une statue de cire. Il sortait de ses yeux deux ruisseaux de larmes qui coulaient lentement sur l'oreiller.
Rassurez-vous, je crois que le paroxysme est passé.
Oui, elle repose un peu maintenant. Pauvre femme. La voilà retombée.
Mais comment cela est-il arrivé?
Cela la saisit tout à coup, pendant qu'elle mangeait des abricots.
Extraordinaire! Il y a des natures si impressionnables à l'encontre de certaines odeurs. Mais pour ce qui est de madame, elle m'a toujours paru, je l'avoue, une vraie sensitive. Aussi ne vous conseillerais-je point, mon bon ami, aucun de ces prétendus remèdes qui, sous prétexte d'attaquer les symptômes, attaquent le tempérament. Oh, non, 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 pas de médicamentation oiseuse. Du régime. Voilà tout. Et puis ne pensez-vous pas qu'il faudrait peut-être frapper l'imagination?
En quoi? Comment?
Ah, c'est là la question. That is the question. Comme je lisais dernièrement dans le journal.
Et la lettre? Et la lettre?
On crut qu'elle avait le délire. Elle lut à partir de minuit. Une fièvre cérébrale s'était déclarée. Pendant 43 jours, Charles ne la quitta pas. Il abandonna tous ses malades, il ne se couchait plus, il était continuellement à lui tâter le pouls, à lui poser des sinapismes, des compresses d'eau froide. Il était désespéré. Ce qui l'effrayait le plus, c'était l'abattement d'Emma. Car elle ne parlait pas, n'entendait rien et même semblait ne point souffrir, comme si son corps et son âme se fussent ensemble reposés de toutes leurs agitations. Vers le milieu d'octobre, elle put se tenir assise dans son lit. Charles pleura quand il la vit manger sa première tartine de confiture. Les forces lui revinrent, elle se levait quelques heures pendant l'après-midi, et un jour qu'elle se sentait mieux, il essaya de lui faire faire à son bras un tour de promenade dans le jardin.
Tu vas te fatiguer, ma chérie. Assieds-toi sur ce banc, tu seras bien.
Oh non, pas le banc, pas là.
Elle eut un étourdissement et dès le soir, sa maladie recommença avec une allure plus incertaine, il est vrai, et des caractères plus complexes. Tantôt, elle souffrait au cœur, puis dans la poitrine, dans le cerveau, dans les membres. Il lui survint des vomissements où Charles crut apercevoir les premiers symptômes du cancer. Et le pauvre garçon, par là-dessus, avait des inquiétudes d'argent. D'abord, il ne savait comment faire pour dédommager M. Homais de tous les médicaments pris chez lui. Puis la dépense du ménage, à présent que la cuisinière était maîtresse, devenait effrayante. Les notes pleuvaient dans la maison. Les fournisseurs murmuraient. M. Lheureux, surtout, le harcelait. En effet, au plus fort de la maladie d'Emma, celui-ci, profitant de la circonstance pour exagérer sa facture, avait vite apporté le manteau, le sac de nuit, deux caisses au lieu d'une, quantité d'autres choses encore. Charles eut beau dire qu'il n'en avait pas besoin, le marchand répondit arrogamment qu'on lui avait commandé tous ses articles et qu'il ne les reprendrait pas. Charles ordonna par la suite de les renvoyer à son magasin. Félicité oublia. Il avait d'autres soucis, on n'y pensa plus. Monsieur Lheureux revint à la charge et, tour à tour menaçant et gémissant, manœuvra de telle façon que Bovary finit par souscrire un billet à 6 mois d'échéance. Mais à peine eut-il signé ce billet qu'une idée audacieuse lui surgit. C'était d'emprunter 1000 francs à Monsieur Lheureux. Ce dernier dicta un autre billet.
Ce qui, avec les 180 du premier billet, nous fait 1250.
Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Adaptation, Pauline Timonier. 7e épisode. Avec Pascal Rénéric, Aurélie Nusillard, Philippe Bautier, Julien Honoré, Bernard Bouillon, Hervé Pierre, Yvan Cory, Pauline Ziadé, Myriam Azinko, Peggy Martineau.
Musique originale et piano, Mathieu Lambollet, avec le quatuor Hanson et Thomas Tantina à la contrebasse.
Bruitage, Benoît Fèvre, Patrick Martinache. Conseillère littéraire, Catel Guillot. Prise de son, montage, mixage, Claude Niort, Manuel Couturier, Éric Villenfin. Assistante à la réalisation, Yaël Mandelbaum. Réalisation, Laure Egoroff.